liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
2 de l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc et Manu.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, la semaine 15, année 2012. Salut Manu.
Salut Luc.
Alors, une revue de presse spéciale, puisque c'est une revue de presse naturiste. Nous sommes tous les deux entièrement nus.
Ouais, surtout toi, hein, quand même.
Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Qu'est-ce que tu nous as remonté?
7 petits articles, c'est pas une grosse revue de presse, hein, ça a été très tardif dans la semaine. Il y a un joli article à lire, vraiment à lire, et assez sympa sur Mediapart. La vente liée. On va parler de Microsoft, alors pas juste une fois, mais deux fois. Les élections, là, on n'y coupe pas. On va parler d'une nouvelle application contre la corruption en Tunisie. Et finalement, on va parler d'art et de faire des œuvres d'art qui soient durables en utilisant les logiciels libres et la notion de libre.
Alors Mediapart, qu'il reste libre ou qu'il meure, avec une faute d'orthographe, par Le Torchon. Alors c'est une tribune plus qu'un article.
Et je suis pas sûr que ce soit une faute d'orthographe, hein, parce que O-U, y a un petit accent sur le U, mais va savoir, ça peut correspondre au ton de l'article qui est assez étrange.
Oui, alors il y a un petit peu de violence verbale dedans, et donc c'est un point de vue très argumenté, là. L'article est super intéressant. Et avec plein d'éléments dedans, et sur un ton qui n'est pas du tout un ton de journaliste ou d'homme politique.
Clairement, hein, il parle même de YouPorn dans l'introduction, et il se met dans la place d'un petit jeune de 16 ans qui a des boutons et qui hurle parce que Mega Upload vient d'être descendu.
Hormis ces aspects cosmétiques rigolos et sympathiques, le fond est de très très bonne tenue et très intéressant. Qui revient donc sur cette histoire de Mega Upload, et qui vient un petit peu apporter de l'eau à mon moulin. J'avais précisé que quelques temps avant la fermeture de Mega Upload, ils avaient fait une campagne de publicité qui avait été remarquée, vous avez été chercher différentes stars pour dire Mega Upload c'est bien. Donc chose que j'ignorais, c'est qu'il y avait un projet pour faire en gros une plateforme de diffusion et qui donnerait 90% selon l'article des revenus aux artistes, et que selon lui, si Mega Upload s'est fait descendre, c'était d'abord une question de gros sous, et qu'il arrivait bille en tête pour mettre à mal les majors et toutes ces grosses entreprises qui font de la diffusion. L'article va beaucoup plus loin, il parle beaucoup de libre en trame de fond.
Et même de copyleft, hein, c'est pour dire.
Oui, surtout de copyleft, où il indique, là on est vraiment dans le sujet, donc le libre au-delà du logiciel, en disant que le copyleft est un vrai modèle de développement, un vrai modèle qui peut permettre de construire quelque chose de complètement nouveau par rapport à ce qu'on connaît. Et là-dessus, il a toute une série d'arguments et d'éléments avec des sources derrière, etc. C'est quelqu'un de documenté.
Il en arrive même à parler de philosophie et à se rapporter à vraiment des notions importantes, le libre, la culture, le partage, par les Anonymous et autres. Vraiment un bon article. Je sais pas qui est Le Torchon, mais bravo, bonne écriture.
PC Impact, l'avenir de la prohibition de la vente liée PC et OS en cassation, un article de Marc Ries.
Donc la vente liée, on en a déjà parlé et c'est pas nouveau, mais là c'est encore un autre jugement. Alors c'est un jugement qui a déjà été réalisé mais qui se retrouve en cassation.
Voilà, la semaine dernière c'était une cour de proximité, donc quelque chose de pas très lourd, en tout cas c'est le début de la chaîne. Là c'est une vieille affaire qui arrive en cassation, elle est passée par la cour d'appel de Versailles qui en mai dernier avait rendu une décision super favorable contre l'avis de la première instance, qui reconnaissait qu'il y avait effectivement de la vente liée, etc.
Alors, donc, à l'encontre de HP, hein, à dire, parce que c'était important à l'époque,
tout à fait.
S'en était pris plein la tête.
Et remettait notamment en cause le site web d'HP, où il disait que sur le site, il n'y avait aucune mention des prix séparés, système d'exploitation, enfin logiciel, y compris systèmes d'exploitation et ordinateurs, et sans rien qui permette d'y renoncer, etc., et que c'était comme une pratique commerciale déloyale. Là-dessus, donc, ça arrive en cassation, donc on rappelle que la cassation, elle ne juge pas les faits qui sont établis par les cours précédentes, elle juge en droit, donc pour voir si les faits qui ont été établis correspondent bien au droit. Et donc là, ça s'annonce pas nécessairement très bien, enfin, après, le principe d'une cour, c'est de décider, puisque l'avocat général, en tout cas, considère que, en gros, forcer HP à proposer une machine sans système d'exploitation, ou en tout cas, enfin, laisser le droit de choisir et tout ça, c'est les forcer à mettre en place un nouveau produit. Et donc, ce serait, en gros, dire comme si on condamnait un constructeur automobile parce qu'il n'avait pas de voiture électrique, par exemple. Donc, le parallèle, il n'est pas très bon, puisque là, on est comme dans le domaine du logiciel, et on ne change pas le hardware de la machine. Donc, la position, l'interprétation, nous semble en tout cas très contestable, et on va voir ce que ça va donner.
On espère que l'avocat général ne va pas trop casser tout ça, mais bon, c'est peut-être son rôle. Hein.
Donc, le Mag IT, Microsoft structure ses relations avec l'open source dans une division. Article de Cyril Chausson.
Alors c'est une des grosses news de la semaine. Microsoft en parle, on en reparle, on en reparlera sûrement. Eh bien, il monte une boîte, une division qui va faire du libre.
Une filiale. On en parlait déjà la semaine dernière avec leur contribution au noyau Linux. Donc c'est une filiale qui aura comme objet d'éclaircir toutes les relations avec le monde du logiciel libre et de l'open source comme ils disent, etc. D'attaquer les questions d'interopérabilité et voilà, de gérer tout ce truc-là. Donc c'est super intéressant, une très bonne nouvelle. Là. Ça veut dire qu'ils sont en train de prendre leur marque de façon durable.
Oui, parce que monter une filiale, c'est pas juste faire un article ou un communiqué, c'est quand même quelque chose d'un peu plus sérieux, un peu plus à long terme, a priori.
Voilà. On disait hier, notamment dans le domaine des services hébergés, etc., ils sont complètement la ramasse. Et donc, manifestement, ils ont compris que le logiciel libre était désormais un acteur incontournable et ils s'adaptent pour interagir avec lui. Donc, évidemment, ils n'ont pas rallié le logiciel libre, mais ça change considérablement par rapport à l'époque où ils étaient à dire que le logiciel libre était un cancer, etc., et à faire du FUD. Donc FUD, pour ceux qui ne savent pas, c'est Fear, Uncertainty and Doubt. Donc c'est une politique qui consiste à vous mettre le doute, à vous faire peur en disant si vous faites ça, vous ne vous rendez pas compte, ça, le ciel va vous tomber sur la tête. Donc tout ça, ça n'a pas suffi et aujourd'hui, bah voilà, ils s'adaptent. Donc est-ce qu'ils ont peut-être des sales coups en préparation? C'est pas impossible.
Alors il y a beaucoup d'attentes et il y a plein de gens qui disent attention, là c'est l'autre stratégie qu'utilise beaucoup Microsoft, c'est le Embrace and Extend, embrasser et étendre, on pourrait essayer de le traduire comme ça, consiste à accepter quelque chose, à l'accepter dans tous ses points, mais à l'étendre un petit peu, de manière à ce que ça devienne quand même leur particularité, est-ce que ça fonctionne plus avec d'autres contextes.
Ce qu'ils avaient fait avec le HTML à l'époque, ils avaient fait donc Internet Explorer qui utilisait un HTML pas tout à fait standard, de telle sorte que bah, du coup on avait plein de navigateurs qui respectaient les standards et ça fonctionnait plus avec les sites, avec pas mal de sites, et on se disait bah, le navigateur il est pas bon, alors qu'en fait on utilisait des fonctions pas standards.
Donc le gars qui va diriger cette nouvelle structure c'est Jean Paoli qui a beaucoup bossé dans justement des éléments de standardisation du web, W3C, OASIS, IETF et autres choses de ce genre-là. Je ne sais plus exactement lequel en particulier, mais doit être dans ces trucs-là. Bon, moi, bravo, c'est bien. Microsoft peut faire des bonnes choses quand ils veulent. En tout cas, ils en ont les moyens.
En tout cas, c'est surtout dans l'intérêt. Hein. Ça ne va pas changer grand-chose au logiciel libre, si ce n'est qu'il va peut-être mieux tourner avec tous les produits Microsoft. Et en soi, c'est déjà pas mal. Lemonde.fr, François Hollande, Nicolas Sarkozy et le logiciel libre, un article de la rédaction.
Alors, sachant que ça, ce n'est qu'un article sur la dizaine d'articles qui sont remontés, qui parlent de politique, hein, on n'y coupe pas. Il y en a d'autres qui parlent de Mélenchon, il y en avait même sur les Verts, d'autres sur encore Hollande, Sarkozy, hein, forcément, c'est un peu les deux favoris quand même. Mais bon, celui-là était pas mal, et puis Le Monde Technologie, c'est quand même une certaine signature.
Alors, bah, déjà, ça parle pas d'Adopi, donc ça, c'est le truc un petit peu embêtant, mais enfin, Adopi, c'est pas le logiciel libre. Donc, ils ont répondu aux questionnaire du Conseil National du Logiciel Libre, donc on est un petit peu jaloux. On attend de leurs nouvelles, et en tout cas, le contenu est très intéressant, puisque bon, ils prennent des positions en faveur du logiciel libre en disant oui, on va mettre plus dans l'administration, mais ça, on a l'habitude.
Oui, ça n'engage pas finalement à grand-chose.
Voilà, on voit comment le référentiel général d'interopérabilité a été vidé de son contenu là, cette année, en 2011. Après ça, chose plus intéressante, il y a des positions prises sur les brevets logiciels, donc ça, c'est très intéressant.
Et même très marquant, puisque là, ils sont en assez grosse opposition, donc tout de suite, c'est clivant.
Ah, Hollande, oui, effectivement, pour le coup, là, on a une vraie différence. Hollande s'exprime fermement contre les brevets logiciels.
Oui, on rappelle que Michel Rocard avait vraiment travaillé au niveau des institutions européennes et avait marqué les esprits et la politique. Voilà. Et Sarko, lui, il est vraiment à l'opposé.
La citation d'Hollande, donc, c'est « éviter de geler des pans entiers de l'innovation par le biais des brevets voyous, dont la simple détention permettrait à leurs propriétaires de prélever un droit de péage sur toute innovation ». Donc ça, c'est des choses qui font plutôt plaisir. Sarkozy, lui, il est dans l'idée de « ouais, il faut des brevets pour protéger le code des entreprises qui font du propriétaire ».
Oui, pour aider l'innovation.
Voilà. Il me rappelle que cette idée de « on va protéger nos investissements, etc. » dans cette logique-là, tout en disant qu'il faut deux modèles en parallèle, le modèle du libre et le modèle du propriétaire, donc il exclut pas complètement le modèle du libre. Mais bon, on sait que les brevets logiciels, par définition, c'est une attaque contre le logiciel libre, puisqu'en fait on brevette les idées, donc le code en lui-même est même plus important, et la licence du code va être complètement débordée par cette idée de brevet.
Donc c'est un truc vraiment important, ça fait partie des gros combats qu'on mène à l'April et d'autres dans d'autres associations. On en parle un peu plus loin, il y a un autre article qui revient là-dessus. Et puis l'autre sujet qui était pas mal, qui a été remonté justement par ce questionnaire, et qui est assez clivant aussi, c'est la neutralité du net. Alors ils sont tous les deux d'accord, a priori, en tout cas c'est ce qu'ils disent, mais finalement...
Et ouais, le diable se niche dans les détails. Donc côté Sarkozy, on dit que cette neutralité est garantie par l'ordonnance de 2011. Il faudrait voir le détail, je ne l'ai pas en tête. Et en tout cas... Hollande, lui, dit que la neutralité se définit également comme l'absence de filtrage ou de bridage. Donc on suppose que c'est pas dans cette ordonnance de 2011. Et donc, il nous rappelle que le PS avait proposé une motion sur ce sujet-là qui avait été rejetée par l'Assemblée, la majorité, en 2011.
Oui, donc pour le gouvernement, la neutralité n'est pas incompatible, soi-disant, avec la création de voies prioritaires pour la circulation de paquets de données, notamment lors des heures de pointe sur le réseau, ce qui est un peu bizarre, parce que cette vieille image du camion-pompier qui doit passer en priorité sur le réseau, ça c'est contre la neutralité du net par sa
définition.
Surtout
que, voilà, si c'est effectivement, on a le cas dans le téléphone, hein, si dans le téléphone on a un appel sur le 112, le numéro européen des secours, effectivement il est prioritaire et on coupe n'importe quelle conversation immédiatement pour le faire passer, mais c'est effectivement le 112. Or là, ce dont on parle, c'est des accès prioritaires vers YouTube et autres trucs, donc exactement de la non-neutralité du net.
Tekiano.com, Tunisie, Yedzi, pour recenser les violences policières et la corruption de la rédaction. Alors Yedzi, c'est une nouvelle solution, un nouveau logiciel libre qui a été primé il n'y a pas longtemps, justement, dans une rencontre de logiciels libres qui se tournait en Tunisie.
Et oui, donc encore des nouvelles de la Tunisie, on est toujours content d'en avoir. Donc bah, c'est un mouvement, il y a un site qui est dans la veine des trucs de type Copwatch et autres, qui ont, comment dire, vu le jour aux États-Unis, qui existent en France.
Et ils s'en revendiquent.
Et ils s'en revendiquent tout à fait, hein. Ils ont des liens d'ailleurs avec la France là-dessus. Le logo, très sympa, et ça reprend, mis au goût du jour, une illustration, un des dessins qui circulait en 68, avec le CRS, avec la matraque, le bouclier rond et la matraque levée au-dessus de la tête, sauf qu'il y a un petit croissant et une petite étoile sur son bouclier.
Et donc, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce Yedzi, et pourquoi il a gagné un prix dans...
Alors, c'est du logiciel libre, donc c'est le premier truc. Et c'est un système donc de reporting cartographique des violences policières et de la corruption. Je connais mal le mouvement, je ne sais pas si en France on intègre aussi les questions de corruption avec la violence policière.
Ça, il n'y en a pas en France, voyons.
Oui, c'est vrai que chez nous, non, jamais. Oh non, en tout cas, il y a des mouvements Copwatch en France, donc on doit supposer qu'il doit y avoir un petit peu de violence policière quand même. Par contre, je ne sais pas si ça intègre la corruption, puisqu'en fait, chez nous, il n'y a pas de corruption, on n'en parle jamais. On a des fois des procès, mais c'est jamais considéré comme un problème à part entière.
A priori, c'est vrai qu'il y a des pays qui sont vraiment touchés, et ce genre d'initiative est assez intéressant. Ça peut peut-être se reproduire, être réutilisé dans d'autres endroits. Je sais que l'Inde, par exemple, est pas mal touchée par la corruption. Et puis en Afrique, globalement, ça peut faire peut-être du bien. Et ce qui est bien, c'est que c'est du crowdsourcing. C'est la foule qui travaille intelligemment, de manière coordonnée, et qui produit des choses qui sont vraiment positives.
PC Impact Brevet. Microsoft déménage stratégiquement aux Pays-Bas, un article de Xavier Berne.
On reparle de Microsoft et on reparle des brevets, mais dans un contexte bien particulier, ouais. L'Allemagne et les Pays-Bas.
Sa plateforme logistique, en quelque sorte, est située en Allemagne, c'est là qu'il va distribuer tout ce qui doit circuler en Europe, etc. Mais comme actuellement ils sont en guéguerre de brevets et que l'Allemagne est malheureusement assez en pointe sur la reconnaissance des brevets logiciels, Motorola, qui a été racheté Google pour faire chier Microsoft,
et Apple,
donc a fait un procès en Allemagne, et Microsoft, sans gros comme une maison, pas nécessairement la défaite, mais en tout cas une mesure conservatoire où on lui interdirait d'entrée de jeu de distribuer ses produits en attendant d'avoir le résultat du procès.
Et ça pourrait être marrant, en tout cas c'est le genre de truc, ça doit leur faire terriblement peur puisque bah, ils se barrent, tout simplement.
Voilà, bah, on imagine les conséquences, elles sont super importantes. En plus de ça, il y a Gibus, hein, Gérald Cédratidinet, notre expert brevet, qui est repris dans l'article abondamment. Tout ça, il y a tout un micmac juridique avec des cours différentes. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails. Allez lire ça si ça vous intéresse. Mais en tout cas, voilà, ils partent en Hollande. Ils ont commencé déjà. Hein, ils sont déjà partis. Enfin, en tout cas, ils sont en train de bouger pour éviter de se faire coincer de ce côté-là.
Donc, bravo. Ça montre bien à quel point les brevets logiciels sont néfastes, y compris aux plus gros et à ceux qui sont en faveur, parce qu'aujourd'hui, Microsoft est en faveur des brevets logiciels. Mais même eux, ils se barrent. Hein, c'est pourri.
Écran, les licences libres permettent de rendre les œuvres plus durables, un article de Marie Lechner.
Donc un bon article sur Libération, repris de leur version papier. Allez y jeter un œil, ça parle des œuvres d'art et du fait que bien, ces œuvres d'art, surtout les numériques, eh bien, sont destinées à mourir. Et il n'y a pas beaucoup de solutions pour éviter ça, si ce n'est.
Les formats ouverts et libres, dont on connaît enfin, le fonctionnement, qui sont parfaitement documentés, etc. Donc c'est une interview d'Anne Laforêt, qui est auteure d'un livre qui est le Net Art au Musée, stratégie de conservation des œuvres en ligne, et qui donc parle de cette question de la conservation des œuvres.
Oui, à mettre en lien avec l'obsolescence technologique. Hein. Nos ordinateurs, nos logiciels ne fonctionnent plus au bout d'un certain temps, pas forcément très court.
On rappelle que le droit d'auteur, c'est 70 ans après la mort de l'artiste. Donc, entre le moment où l'œuvre est créée et le moment où elle arrive dans le domaine public, il peut se passer un bon siècle facile, voire plus. Et comment peut-on relier relire ou réinterpréter les trucs après ce délai-là, etc. C'est des sujets très importants. Bah, elle pose la problématique et on lui demande, bah oui, mais alors est-ce que justement l'approche open source, encore ce sale mot, peut garantir une plus grande légitimité ? Elle dit que oui, même si c'est relatif.
Oui, c'est pas une garantie absolue, hein, loin de là, mais en tout cas, en faisant ça, on cède. Et en ne le faisant pas, c'est à peu près certain qu'on va, on se met des bâtons dans les roues énormes et on va gâcher des choses. Hein, je veux dire, la Joconde, aujourd'hui, on la lit facilement. Est-ce que les œuvres d'art d'aujourd'hui qui seraient majeures plus tard seront encore visibles ? C'est pas sûr du tout. Bon, sur ce, on va terminer la revue de presse. Donc peut-être à la semaine prochaine, mais avec les vacances, on va voir. Hein, si ce n'est si
oui,
à la semaine d'après.
Je m'en vais, donc voilà.
Donc bonne journée.
Salut.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'April, proposée par Luc Fievet et Manuel Charpentier. La revue de presse de l'April, c'est aussi dans Divergence Numérique, tous les jeudis à 12h30 et 17h30.